ça, si ça marche ici, je vais éviter de prendre le micro. Alors, le docteur Bérard disait que ce n'était pas facile de prendre la parole avant Monsieur Gilles. Ce n'est pas facile de la prendre après également. Alors, je vais vous parler de la mémoire explicite, qu'on appelle également la mémoire déclarative, et qui se caractérise par le fait que c'est une mémoire qui est consciemment exprimée. Alors, c'est une mémoire qui met en jeu plusieurs étapes. Tout d'abord, une étape de traitement des informations sensorielles qui sont reçues par nos organes des sens. Ensuite, une étape de codage et de stockage sous forme de représentation dans des réseaux neuronaux qui sont distribués. Et puis enfin, une étape de restitution de ces informations. La restitution en général ne se faisant pas en tout ou rien. Ça va être à partir d'un élément, d'un morceau du souvenir, par propagation de l'activation au sein du réseau, on va pouvoir reconstituer la totalité ou la grande majorité du souvenir qui a été constitué. Alors, les structures qui interviennent dans la récupération de l'information ne sont pas exactement les mêmes que celles qui interviennent dans l'apprentissage. Pour apprendre, il faut mettre en jeu un certain nombre de régions qui sont connectées entre elles et qui forment donc le circuit de Papez. Et au sein de ce circuit de Papez, il y a une structure particulière qu'on appelle l'hippocampe et qui a un rôle crucial dans l'apprentissage. Alors, je vais maintenant vous parler au sein de la mémoire explicite. On va pouvoir distinguer différents types de mémoire. Alors, je vous parle d'abord de la mémoire épisodique qui correspond à une mémoire événementielle. C'est la mémoire où sont stockés les événements qui sont vécus personnellement. Au sein de cette mémoire épisodique, on a donc des informations sur des faits, mais également des informations sur le contexte spatial et temporel de ces faits. Elle va mettre en œuvre un niveau de conscience autonoétique, c'est-à-dire une pensée tournée vers soi, et elle va relever d'un processus du type « je me souviens ». Là, par exemple, je me souviens d'être allé visiter la vallée des singes à Romagne, c'était l'an dernier au mois d'avril en 2008. Alors, j'ai un souvenir de cet événement, mais c'est vrai que quand je vais m'en souvenir à différents moments, je ne vais pas forcément me le représenter de la même façon. C'est-à-dire qu'un souvenir, il n'est pas stocké d'une manière définitive, d'une manière absolue. Son évocation va pouvoir faire qu'il varie au cours du temps. Et de la même façon, les personnes qui m'accompagnaient n'ont pas forcément le même souvenir. Donc il n'y a pas de vérité absolue d'un événement. C'est en fonction de la façon dont chacun l'a vécu et va ensuite le réactiver au cours d'un certain nombre d'essais que le souvenir va prendre une coloration, par exemple, plus positive ou plus négative. Alors, on oppose souvent cette mémoire épisodique à la mémoire sémantique, qui, elle, est une mémoire de connaissance. Et cette mémoire, elle est indépendante des informations contextuelles. C'est une mémoire qui met en jeu un niveau de conscience dit noétique et qui va renvoyer à un sentiment de familiarité. Là, par exemple, je vais pouvoir dire « je sais que Paris est la capitale de la France ». En revanche, je ne sais pas du tout quand et où j'ai appris ça, parce que c'est à force de l'avoir entendu répéter, ça s'est constitué dans mon stock de connaissances, mais je sais simplement que Paris est la capitale de la France. Alors maintenant que vous avez en tête cette distinction entre la mémoire épisodique et la mémoire sémantique, je vais compliquer un petit peu les choses en vous parlant, pour la mémoire autobiographique spécifiquement, des deux distinctions qu'on peut faire. C'est-à-dire qu'au sein de la mémoire autobiographique, on va pouvoir avoir une mémoire autobiographique épisodique, qui renvoie donc à ces épisodes personnellement vécus, des épisodes spécifiques, uniques, et puis une mémoire autobiographique sémantique, qui, elle, va contenir des événements plus généraux. Et ce sont des événements généraux parce que ce sont, par exemple, des souvenirs répétés, la semaine de vacances passée tous les étés chez la grand-mère, donc on a un souvenir général de ces semaines-là. Et puis, ça peut être également des souvenirs sur une période de temps étendue. Par exemple, les souvenirs relatifs à la période scolaire. Alors, ces souvenirs, parfois, on ne peut pas les récupérer de manière satisfaisante. Et ça peut se faire dans le cadre de ce qu'on appelle d'une amnésie rétrograde. L'amnésie rétrograde se caractérise par le fait qu'on ne va pas pouvoir restituer des événements qui se sont passés avant un choc psychologique ou un accident ou une maladie. Et on distingue cette amnésie rétrograde de l'amnésie antérograde qui, elle, se caractérise par le fait qu'on ne va pas pouvoir acquérir de nouvelles connaissances depuis l'instant du choc. Alors, on peut observer conjointement ces deux types d'amnésie, notamment en cas de lésion bilatérale des hippocampes, cette structure dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, d'autres accidents ou d'autres perturbations de la mémoire peuvent intervenir. Et par exemple, c'est ce qu'on va observer dans le cadre de l'interférence proactive, où ce qui se passe, c'est qu'un apprentissage antérieur va venir perturber l'acquisition d'une nouvelle connaissance. Par exemple, quand on acquiert une langue étrangère, parfois les connaissances d'une autre langue proche, entre l'italien et l'espagnol, il peut y avoir des interférences et ça va venir perturber l'acquisition du nouveau vocabulaire. Et puis, à l'inverse, on va pouvoir observer des phénomènes d'interférence rétroactive où un apprentissage ultérieur va venir perturber la restitution de l'apprentissage antérieur. Alors, pour terminer cette présentation rapide sur la mémoire explicite, quelques mots sur la mémoire de travail. Cette mémoire de travail, c'est une mémoire temporaire qui peut être conçue comme un espace de travail où les informations vont être stockées temporairement, le temps d'être transformées pour être intégrées à des schémas plus stables. Alors, c'est une mémoire qu'on va mobiliser dans des activités comme la compréhension de texte ou comme la conduite automobile, par exemple. Et donc, pour traiter les informations, on va pouvoir utiliser des traitements qui sont un petit peu symbolisés par ce casier sous clé, des traitements qui vont nécessiter de mobiliser une attention, des ressources cognitives, donc ce sont des traitements contrôlés. Et puis, on peut également mettre en jeu des traitements qui sont plus automatiques, plus routiniers, intégrés à des habitudes. Et c'est donc ce qui va me permettre maintenant de passer la parole à Véronique Bonneau, qui va vous parler de la mémoire implicite.